have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Au micro de présentation, John Lyndon, production Michel Joseph. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Un groupe de 5 élèves gambiens invités à un concours de robotique aux États-Unis qui s'est vu refuser mardi les visas d'entrée sur le sol américain a finalement, après un deuxième examen de leur dossier, les visas ont finalement été accordés à ces jeunes, mais pas à leurs instructeurs. La compétition, qui se déroule du 16 au 18 juillet, est destinée à promouvoir l'ingénierie et la technologie dans les écoles du monde entier. La semaine dernière, le magazine américain Forbes a rapporté que 6 jeunes Afghans qui devaient participer à cette même compétition se sont vus refuser un visa d'une semaine malgré 2 tentatives. En mars, tous les Africains invités à l'African Global Economic and Development Summit, une conférence commerciale en Californie, s'étaient vus refuser le visa d'entrée aux États-Unis selon les organisateurs. Alors question, que pensez-vous de la politique des délivrances et des visas d'entrée aux États-Unis depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche? Voilà qui constitue le menu de cette édition de l'Amérique et vous. Vous pouvez participer à cette émission en appelant au 001-202-205-2633. Et bien sûr, vous pourrez réécouter cette émission sur notre site internet voafrique.com. Pour m'accompagner dans cette émission, j'ai Henri Désiré Nzosi depuis la Belgique. Henri, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, merci, comme d'habitude, pour votre disponibilité. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cet épisode que j'évoquais en début d'émission, ces jeunes Africains qui viennent participer à un concours de robotique? Et on se souvient, pour la petite histoire, que le papa de Barack Obama était venu ici en tant qu'étudiant. Et c'est grâce à ce voyage qu'on a eu un président noir. Alors, cet épisode, qu'est-ce qu'il dit pour vous?
Bon, d'abord, c'est un heureux dénouement. Il faut bien se réjouir pour ces jeunes Gambiens qui, après avoir reçu ce refus, finalement obtiennent gain de cause, ce qui n'est pas le cas, évidemment, vous l'avez évoqué, de ces adolescentes afghanes.
Oui.
Ça ne concernera pas non plus les équipes irakiennes, iraniennes et soudanaises qui, elles, ont pu en fait obtenir leur visa en dépit des difficultés actuelles. Il y a véritablement, de la part de l'administration Trump, une volonté d'imposer une politique extrêmement restrictive de délivrance de visas. Les raisons qui sont évoquées sont évidemment de nature sécuritaire, mais évidemment c'est l'amalgame à l'état brut qui est plutôt envisagé ici, puisqu'on fait absolument croire tout et n'importe quoi. Pour la petite anecdote, une des raisons pour lesquelles les visas ont été refusés pour les jeunes Indiens, c'est qu'en fait, le matériel qui avait été exporté en fait vers les États-Unis pour pouvoir effectuer la démonstration a été perçu comme un moyen, c'est assez curieux, mais bon, je vous le dis quand même, un moyen par certains services américains pour l'État islamique de pouvoir utiliser le robot comme arme de guerre. Ça vous donne une idée de la psychose ou du niveau de paranoïa auquel on est arrivé aux États-Unis. Cette politique de restriction est extrêmement pénalisante puisqu'elle ne permet pas, et vous l'avez évoqué, notamment des échanges même au niveau intellectuel, puisque des étudiants, des chercheurs, des entrepreneurs, des hommes d'affaires ont de plus en plus de mal à pouvoir obtenir leur visa pour venir dans le cadre d'échanges qui sont toutes s'inscrivent dans une tradition tout à fait longue et historique de la part des États-Unis de rester ouverte sur le reste du monde.
Alors, vous restez avec nous, Henri. On va prendre notre premier auditeur. Il s'agit de Bonfils Makwaya Bobo Hassan. Salut.
Bon, oui, salut.
Voilà, Bonfils, vous vous parlez d'un héritage, en quelque sorte, hein, que Trump est en train de gérer et qui a été laissé par ses prédécesseurs. Comment cela?
C'est là pour expliquer le fait que les États-Unis sont, je dirais, sont donc à la base de tous les combats qui se passent dans les pays musulmans. Mais non. Quand lui est arrivé au pouvoir, il se retrouve devant plusieurs problèmes. Il y a des pays musulmans. Là, il ne sait pas comment se gérer. Fait par ce qu'on appelle djihadiste, il prend maintenant tous les pays musulmans sur les rangs. Et voilà que maintenant, il commence même à déborder. Un petit garçon qui veut défendre, par exemple, un petit mémoire aux États-Unis se voit refuser son visa. C'est un peu ça.
Alors, est-ce que vous, dans votre pays, je crois que vous nous... Bonfils, je crois que vous nous appelez du Congo, de la RDC. Est-ce que vous, dans votre pays, vous avez des histoires de refus de visa?
Par rapport... Bon, chez nous, ça peut arriver, bon, mais ce n'est pas fréquent. Mais généralement, on donne des visas à n'importe qui, selon l'analyse du dossier.
D'accord. Alors, merci beaucoup, Bonfils Makwaya Bobo Hassan. Henri, est-ce que si tel est que le problème qui se pose est celui de la sécurité, et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait des incidents qui interviennent à partir des États-Unis ou parfois ce ne sont pas forcément des étrangers? Comment l'administration Trump justifie cela?
Bon, pour revenir peut-être sur l'intervention de notre auditeur, rappeler hein, que de toute manière, lorsqu'un visa est refusé, l'ambassade américaine n'est pas tenue
de justifier cela, tout à fait.
Ce qui est assez frustrant pour celui qui se voit refuser le visa. Maintenant, oui, effectivement, c'est l'éternel, je dirais, problème, l'éternel débat qui consiste à anticiper sur une menace perçue comme telle par l'administration Trump et ce qui se passe réellement sur le territoire américain. Ce qui est important ici, c'est de noter que la menace se trouve peut-être déjà sur le territoire américain et que donc ce n'est pas en restreignant de manière extrêmement drastique l'octroi de visa qu'on réglera ce problème, d'autant que vous avez vu, le refus des jeunes Gambiens a été finalement transformé en accord, puisqu'il y a eu, je pense, une forte mobilisation pour dénoncer en fait ce qui apparaissait comme un déni par rapport à une initiative qui réunit, il faut bien le rappeler, hein, donc nous parlons bien évidemment de cette grande rencontre qui se déroule la semaine prochaine, hein, la First Global Challenge, qui est quand même un moyen important de pouvoir, à travers des rencontres de jeunes, promouvoir la paix. Et ce n'est pas en essayant de plaider un tel événement et en jetant l'opprobre ou le discrédit sur telle ou telle communauté que l'Amérique, la toute-puissante Amérique, réglera ses problèmes. Donc il faut, à mon avis, à ce niveau-là, changer radicalement de paradigme.
Voilà. J'ai l'honneur ou le plaisir d'accueillir ici en studio Eric Ambago, qui, lui, a eu... son visa, vous venez de RDC, c'est bien cela?
Exactement, exactement.
Alors, comment ça s'est passé et quelle a été l'interaction avec l'officier ou les officiels de l'ambassade des États-Unis en RDC?
D'abord, il faut dire que lorsqu'on va demander son visa à l'ambassade américaine, il y a déjà, vous avez du monde. Il y a, c'est dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, à l'ambassade ou au consulat de l'ambassade américaine, on se retrouve, c'est chaque lundi, chaque mardi ou chaque jeudi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes, alors une longue file, à l'entrée de l'ambassade, et un à un, on entre. On peut arriver là et faire une heure, même deux heures pour arriver jusqu'au niveau de l'officier du consulat pour faire l'interview. Mais en tout cas, il faut souligner que c'est pas facile pour obtenir le visa des États-Unis.
Alors, vous parlez d'interview. Quel est généralement le genre de questions qu'on vous pose à l'ambassade? Est-ce que ça a à voir avec le dossier que vous avez fourni ou c'est quoi le genre de questions?
La principale question, c'est la raison pour laquelle vous allez aux États-Unis. Pourquoi vous allez aux États-Unis? Ça, c'est la première question qu'on vous pose. La deuxième question, c'est vous faites combien de temps aux États-Unis? C'est en tout cas les deux questions, les principales questions. Lorsque vous avez répondu à la première question convenablement, pourquoi vous allez, les raisons pour lesquelles, et généralement, si vous avez notamment une invitation crédible, ça passe. Et deuxièmement, vous ferez combien de temps? Le personnel de l'ambassade est rassuré si vous êtes plus ou moins, vous dites que vous allez pas traîner aux États-Unis. Si vous dites, par exemple, pour mon cas, j'ai dit, je ferai 10 jours. Et vous, du coup, il m'a dit, c'était 45 secondes, on va dire comme ça, 45 secondes, il m'a dit, ok, vous avez votre visa.
Alors, j'entends souvent parler de questions relatives aux moyens financiers dont vous disposez pour pouvoir vous prendre en charge aux États-Unis. Est-ce que, par exemple, cette question vous a été posée et qu'est-ce que les autres disent à propos?
Oui, c'est cette question. Nous, c'était particulier parce que nous sommes partenaires avec la VOA. Donc, nous, c'est déjà une invitation à venir par ici.
Crédible.
Oui, crédible. Donc, il n'y a pas de problème. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. On ne nous a pas posé cette question. Mais pour d'autres requérants, on leur pose justement cette question. Et la réponse, c'est souvent prise en charge par un membre de famille ici aux États-Unis, ou soit alors à partir du pays, on justifie qu'on a un salaire qui permet à ce que l'on puisse se prendre en charge ici aux États-Unis.
Alors, je vais prendre un autre auditeur au téléphone, Louis Mutanga, bonsoir.
Bonsoir VOA, bonsoir aux auditeurs chéris de la VOA. En tout cas, nous intervenons sur la question de l'immigration, étant donné que nous voyons que l'administration Trump, c'est une nouvelle administration qui veut changer les choses. On doit aussi leur donner raison. Il a été élu sur base vraiment de cette réforme. Ainsi, on devra comprendre que l'Amérique, ce n'est pas tout le monde, tous les pays qui vont aller y habiter, mais il y a une loi qui va se régulariser pour le profit et l'intérêt des Américains. Donc, quand on analyse la situation, on doit se poser la question, qu'est-ce qui a amené l'administration Trump à pouvoir changer la loi sur l'immigration? Donc, quand on se pose, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on a retrouvés qui étaient contre les intérêts du peuple américain. Donc, ça, c'est une paire de manches. La deuxième paire de manches, c'est les défis auxquels cette loi est en train de nous poser. Donc, d'une part, il y a la liberté de circuler librement, qui a des problèmes. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs américains. Il y a aussi les Africains, le reste du monde, qui doivent collaborer, échanger, même les expériences sur le plan scientifique. Ça pose des problèmes de barrières. Donc, c'est aussi un autre problème. Donc, sur le plan de la globalité de la situation, on ne doit pas toujours condamner cette loi. On doit aussi amener aussi les autres pays où viennent les immigrés et pouvoir changer la situation de leur peuple pour que les choses puissent aller bien.
Voilà.
C'est tout ça notre contribution.
Merci, Louis Mutanga. Henri Désiré, lui évoquait deux questions que je voudrais vous répercuter. D'abord, le problème d'échange sur le plan strictement scientifique. Ces jeunes qui viennent, ils viennent pour apprendre, pour partager leur expérience. J'imagine que du côté américain, ils peuvent aussi apprendre quelque chose.
Bien entendu, puisqu'il s'agit effectivement de confronter les vies et surtout le processus créatif, c'est aussi une manière de permettre à ces jeunes d'interagir dans un domaine d'excellence, hein, un domaine scientifique ou bien des nouvelles technologies. Dans le cas d'espèce, il s'agit en fait de la robotique, hein, puisque je l'ai évoqué, cette compétition se déroule donc à la mi-juillet avec 164 équipes de jeunes qui y participent. Et donc, c'est effectivement un moyen de pouvoir promouvoir d'une certaine manière la paix en cultivant la tolérance et l'ouverture vers l'autre. L'Amérique a toujours été une terre d'immigration, mais il est vrai que depuis l'arrivée de Donald Trump, on a tendance à vouloir, je dirais, serrer la vis, puisque l'Amérique semble être dans une logique, j'allais dire, de repli sur elle-même et d'isolationnisme. C'est quelque chose pour laquelle certains Américains, d'ailleurs de plus en plus nombreux, sont en train de lutter contre. On l'a vu d'ailleurs avec le retrait de l'accord de Paris, qui ne fait pas du tout l'unanimité aux États-Unis, et on voit très bien une forme de résistance s'organiser dans les villes, à travers des personnalités emblématiques, hein, comme Michael Bloomberg ou certains maires ou gouverneurs de certains États, pour refuser cette logique de repli sur soi qui est extrêmement contre-productive et qui ne correspond pas du tout à l'image que l'on se fait de l'Amérique.
Alors, une question que j'ai vue dans beaucoup d'articles sur Internet et beaucoup d'avis, c'est la question des finances. En fait, beaucoup de ceux qui font des demandes de visa et qui se les voient refuser pensent qu'il faudrait que l'ambassade ou les ambassades restituent les fonds qu'elles prennent. Quel est votre avis là-dessus?
Il y a effectivement des ambassades qui appliquent une politique de caution. Certaines, quelques-unes, restituent effectivement, d'autres gardent ces sommes comme sous forme de garantie. Mais il faut savoir qu'à ce niveau-là, chaque pays a toute latitude pour, je dirais, fixer les conditions d'entrée et d'accès sur son territoire. Mais je vous parie néanmoins que si vous présentez deux personnes avec exactement le même dossier pour une même ambassade, vous pouvez être sûr que deux ne partira pas, il n'aura pas son visa. Donc ça reste évidemment très aléatoire, mais il y a évidemment d'autres critères, dits objectifs sur lesquels se fondent certaines ambassades et donc certains États pour juger de la crédibilité ou de la fiabilité du dossier qui leur est présenté.
Alors on va prendre un autre auditeur au téléphone, Yao Marcelin Kofi. Et Yao, bonsoir.
Oui, bonsoir monsieur.
Alors, vous pensez que les États-Unis sont en train de fermer les frontières aux Africains?
Tout à fait. Le thème de la semaine dernière sur l'immigration, en fait, les deux thèmes se rejoignent. C'est vraiment triste pour Trump et son administration de refuser des visas des étudiants gambiens. La simple raison qu'ils sont africains, ou musulmans, donc des terroristes. Ce Trump et son administration ne peut pas assimiler des immigrés à des terroristes. Il est vraiment spécial, ce monsieur. Vraiment, je n'arrive pas à les céder. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Les décrets sur l'immigration sont vraiment... C'est un décret qui est un frein à la liberté de mouvement des Africains et des musulmans. C'est même contraire aux valeurs américaines. On ne peut pas empêcher les étudiants d'aller approfondir la recherche dans d'autres pays. C'est quand même malséant de prendre des décrets étudiants et puis j'espère que les juges commissionnaires auront le temps de vraiment voir l'opportunité de ces décrets là.
Alors jusqu'à présent les décrets. Yao Marcelin Kofi, vous restez avec nous. Eric Ambago, vous venez de RDC. Vous qui êtes là-bas, comment est-ce que la jeunesse se sent? Parce que beaucoup veulent voyager. À une époque, les gens voulaient aller en Europe, en Belgique, en Suisse. Il se pourrait que la tendance maintenant, c'est les États-Unis, c'est le Canada. Pourquoi?
D'abord, pour les États-Unis, c'est la destination privilégiée. Les États-Unis, terre d'immigration. Parce que aujourd'hui, avec le Develotri, vous savez, ces derniers temps, le Develotri est suivi de très près par la jeunesse congolaise. Tous les jeunes se ruent vers ce jeu. Les cybercafés sont pris d'assaut par les jeunes congolais qui prient pour que leur dossier soit accepté afin de venir poursuivre leurs études ou même poursuivre leurs activités ici aux États-Unis. C'est un rêve pour les Congolais. Donc aujourd'hui, vraiment, il faut dire que c'est un engouement vers ce programme américain que les jeunes Congolais ne voudraient pas voir supprimée, parce que d'après les rumeurs, il y aurait réduction, etc. Les jeunes Congolais, déjà cette année, je vous dis, déjà, tout le monde avait peur, et tout le monde était dans l'anxiété, avec l'élection du président Trump. Tout le monde était inquiet, et de voir que ce programme soit supprimé, mais en tout cas, les jeunes Congolais voudraient vivement que ce loterie continue, parce que ça leur permet de pouvoir s'expatrier et venir ici aux États-Unis.
Alors, merci. On va prendre Bakary Keïta au téléphone. Bakary, bonsoir.
Ah, bonsoir, Eric.
Voilà, c'est John Lyndon en lieu et place.
John Lyndon, bonsoir.
Alors, votre réaction, comment jugez-vous qu'est-ce que vous pensez de la politique de délivrance et des visas de Donald Trump?
Moi, quand j'ai rejoint le secteur qui disait que les États-Unis, quand même, ferment l'entrée aux Africains. Parce que moi, j'ai tenté le visa en 2002. Il n'a pas eu. Donc en 2006 aussi, j'ai tenté aussi également. Bon, ça n'a pas marché. Parce que bon, quand même, c'est une politique quand même rigoureuse. Quand même, ils m'ont posé des questions et à travers quand même ces deux questions, ils disent que vraiment, je n'ai pas quand même les ressources nécessaires d'aller aux États-Unis. Et ils m'ont demandé d'abord, en dehors de... Qu'est-ce que j'aimerais aller faire aux États-Unis? Ensuite, ils m'ont demandé, en dehors du Mali, quels sont les autres pays que j'ai eu à visiter? Et ouais, après ça, bon, ils disent que, en vérifiant mes dossiers, ils disent que je n'ai pas les ressources quand même nécessaires pour aller aux États-Unis. Moi, je crois qu'ils doivent assouplir leur position un peu pour donner la chance à tout le monde d'aller visiter quand même le pays de l'oncle Sam.
Voilà, merci. On va prendre Diarra Kanyoumé au téléphone. Diarra, bonsoir.
Bonsoir, Bagassi-Koura, bonsoir à toutes les rédactions de VOA Afrique.
Voilà, c'est John Lyndon, pas Bagassi-Koura. Sinon, qu'est-ce que vous pensez de la politique de délivrance des visas sous Trump?
Bon, à mon avis, je pense que vraiment les politiques de M. Trump, vraiment, ça, c'est en train de me décroiser par rapport à beaucoup de choses, parce que depuis qu'il est venu au pouvoir, vraiment, sa politique, vraiment, ça ne correspond pas à les peuples américains d'abord, surtout à faire des visas. Par exemple, si tu dis que non, tu dois aller aux États-Unis, on te demande d'abord tu as combien dans ton compte. Donc je pense que vraiment tout le monde n'a pas de compte en Afrique ici pour d'aller d'abord aux États-Unis. On te demande d'abord tu vas aller faire quoi là-bas. Donc affaire de visa, vraiment c'est pas facile d'aujourd'hui que tout le monde va le gagner, parce que les visas aussi, affaire de visa, c'est devenu un problème de corruption aussi, monsieur le journaliste. Donc, à mon avis, je pense que vraiment, depuis monsieur Trump, il est venu au pouvoir, vraiment.
Voilà, merci. Voilà. Merci pour cette réaction. On va faire un dernier tour de table. En 30 secondes, Henri Désiré Nzosi, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui souhaitent venir aux États-Unis? C'est pas notre intention, mais s'il y en a qui veulent, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
En dépit des restrictions, il faut garder espoir, parce que malgré le fait qu'il y ait effectivement une diminution dans les acceptations, la proportion des visas accordés reste évidemment supérieur à ceux refusés. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il ne faut pas trop s'inquiéter, mais tout en restant bien évidemment attentif à la manière dont l'administration Trump va régérer cette situation.
Alors, Eric Ambago, vous, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous avez eu votre visa. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous écoutent?
Je dirais simplement que aujourd'hui, les pays africains devraient faire un effort pour améliorer les conditions de vie de leur population, pour éviter justement cette expatriation, mais aussi que les États-Unis soient souples dans la délivrance des visas, parce qu'effectivement, on délivre beaucoup de visas, on en refuse également beaucoup. Il faudrait un équilibre, mais surtout que l'on ne suspende pas le développement.
Voilà, merci à Henri Désiré Nzosi qui nous appelait du côté de la Belgique. Merci à Eric Ambago. C'est la fin de cette émission qui était produite par Michel Joseph. Franklin Caesar était à la mise en onde. John Lyndon vous l'a présenté. On se retrouve sur les ondes de VOA Afrique. Je vous laisse en compagnie de Abdourahmane Dia pour les informations. Bonsoir.